Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago, numéro 1115 aujourd'hui, en ce samedi 11 septembre 2021. Oui, la semaine dernière, c'était hommage à Patrick Verbeek et on écoutera à nouveau Patrick Verbeek dans cette émission. Deux interviews, deux invités, deux très très grands harmonicistes. Il y en avait deux la semaine dernière, c'est vrai, dans l'émission de Dan Zirotti dans Moonshine Blues, en la personne de Baco et de Benoît. Et bien, il y en aura deux autres aujourd'hui, Nick Owen Toussaint en première heure et Greg Slapp en deuxième heure. Voilà, tout à l'heure, extrait d'une interview captée le 27 août dernier pendant le festival Jazz sous les pommiers auprès de Nick Owen Toussaint, avec en illustration bien sûr des extraits de son dernier album en date, Nick Owen Toussaint Plays James Cotton, chez Dixiefog Records, à propos de ce fabuleux concert qu'il a pu donner lors du dernier Jazz sous les pommiers. Et puis en deuxième heure, interview en direct cette fois-ci de Greg Slapp, que l'on ne présente plus, si ce n'est que, bah si, on va le présenter tout à l'heure. Je pense que il y a peut-être encore 2-3 extraterrestres qui n'ont jamais entendu parler de Greg Slapp. Ben voilà, on va faire la découverte peut-être pour vous de cet artiste immense qui a carrément été l'harmoniciste de Johnny Hallyday pendant les 10 dernières années de sa carrière 2007-2017. Voilà, je ne sais pas si à la fin de l'émission on pourra revenir sur l'année 1971, la fameuse rubrique 50 Years After avec Dr. John. En tout cas, eh ben, on va se laisser guider par la playlist. Et voici tout de suite une nouveauté, un truc découvert à la fin du printemps et pas encore diffusé dans Sweet Home Chicago, honte à moi, l'album de 89V, autrement dit 89 Volt, l'album Little Black Flies. Belle découverte donc sur le label Roof Records. Mais avant, on va écouter un extrait du disque du mois que je vous propose tout de suite, c'est monsieur Tommy Castro. C'est l'album qui va nous accompagner durant le mois de septembre chez Alligator Records. Ça s'appelle Tommy Castro Presents a Bluesman Came to Town. Ça s'appelle Somewhere. Is over. fabuleux concept album que vient de sortir Tommy Castro pour le compte du label Alligator Records. Disque du mois pour Sweet Home Chicago. On est ensemble jusqu'à 15h sur le 666 avec cette nouveauté que je vous présentais tout à l'heure, 89B. Ça s'appelle Little Black Flies. C'est chez Roof Records. Voici Traveling Man, 89B. Voilà, 89 volts, 89V, l'album Little Black Flies fait partie de la génération montante du blues actuel. Voilà, il y a donc des anciens, des nouveaux dans Sweet Home Chicago, comme d'habitude. Et puis également un petit hommage, là encore, cette semaine à notre ami Patrick Verbeek, qui, je vous le rappelle, nous a quittés le 22 août dernier. Voici un titre qu'on avait initialement programmé dans l'émission de la semaine dernière et qu'il a fallu repousser. Ben, c'est pour maintenant. Et je vais le dédicacer tout particulièrement à mon ami Jean-Christophe Panico, qui nous a régalé durant ce Moonshine Blues et ce Sweet Home Chicago la semaine dernière, avec sa guitare, avec ses anecdotes et avec son cœur. Voici Baby Blues 2000, Patrick Verbeek.
À toi, le bébé de l'an 2000, je voudrais offrir un blues bien tranquille. Oui, toi, petit homme de demain, si on te fait misère, t'en auras bien besoin. Plus de 2 kilos d'années se sont écoulées depuis qu'un homme parlant d'amour a montré le bout de son nez. Rien n'a pourtant vraiment changé, mais l'espoir est resté. Pour le préserver. À toi, petit bébé de l'an 2000, je voudrais offrir ce blues bien tranquille. Toi, petit bonhomme de demain, si on te fait misère, we'll Pendant que tu cours vers la lumière et fais de la tendresse ta fidèle maîtresse. À toi, mon bébé de l'an 2000, je voudrais jouer ce blues bien tranquille. Pour toi, petit bonhomme.
Monsieur Patrick Verbeek, on était en 2000. L'album s'appelait justement Year 2K Blues chez Dixie Frog Records. Patrick Verbeek, qui avait découvert le blues une certaine année 1963. Voilà, ça peut pas forcément me laisser de marbre non plus. Et c'était devant un certain Peter Chapman, alias Memphis Slim. Le voici dans Every Day I Have the Blues. Memphis Slim, on est en 1963. Eh oui. Memphis Slim en 1963. Memphis Slim qu'on a pu voir sur scène à Caen. C'était un an avant sa disparition, 1987, grâce à l'assaut backstage. On s'en souvient peut-être pour certains d'entre vous, pour les plus anciens en tout cas, puis ceux qui étaient sur Caen déjà à l'époque. Memphis Slim qui avait été une grande inspiration avec Mickey Baker pour notre ami Patrick Verbeek. On va maintenant passer un long moment durant cette première heure avec monsieur Nick Owen Toussaint qui, il y a 3 ans déjà, s'est fendu d'un hommage à James Cotton, l'harmoniciste, et qui nous l'a représenté sur scène à nouveau. C'était le 27 août dernier, lors du festival de jazz sous les pommiers de Coutances. Voici Nick Owen Toussaint avec No Cutting Loose, qui sera suivi de l'intégralité de l'interview qui s'est déroulée juste avant ce fameux concert du 27 août. Nick Owen Toussaint, dans la radio. Un album extrait de l'album Nico Wayne Toussaint Plays James Cotton chez Dixie Frog Records, un enregistrement de 2018. Et juste à venir dans 10 secondes, l'intégralité de l'interview que Nico Wayne Toussaint avait pu nous donner juste 3 quarts d'heure avant de monter sur scène le 27 août dernier. On était au Festival Jazz Sous les Pommiers de Coutances. Voilà, en direct de Coutances avec Nico Wayne Toussaint. Super content de te revoir, Nico. Comment ça va ?
Ça va très très bien.
Très très bien, et d'autant mieux, j'ai envie de dire, depuis quelques semaines quoi maintenant.
Pourquoi ?
Avec la reprise du travail.
Oui, ouais, avec la reprise des concerts, bien sûr, voilà. Bien sûr. Après, je pense que tout le monde a réussi à tirer quelque chose de ce confinement et de ces années passées, de ces années maintenant, puisqu'on en a deux. Et donc, on redécouvre aussi le bonheur de jouer, et c'est bien, parce qu'on en a été privé, donc voilà.
C'était comment à Nico Wayne Toussaint en plein confinement ? C'était... je veux absolument qu'on continue à me voir sur les réseaux, ou je veux performer un petit peu tout seul à la maison, continuer à m'entraîner, ou alors un petit peu de déprime et puis des moments difficiles, ou est-ce que...
En fait, moi j'ai une double casquette, puisque je suis professeur aussi, et en tant que prof, je n'ai jamais cessé d'être en ligne et d'assumer les cours de FLE que j'enseigne à Pau. Donc, la musique est passée au second plan et mon activité de groupe est tombée totalement en sommeil. Je ne me suis pas du tout battu pour écrire des chansons, pour faire des vidéos. J'ai observé tous les groupes qui le faisaient en me disant c'est incroyable, mais j'espère que le public se rend compte que c'est pas gratuit tout ça, que ça demande énormément de travail. Et que là, les gens... Alors, nous, à la fin du confinement, on en a fait un pour rigoler. Puisqu'en plus, tout le monde s'était équipé. Tout le monde a acheté des micros, tout le monde a appris à faire de la vidéo, à se filmer, à convertir. Donc ça, c'est un des bons aspects, disons. Mais tout le monde s'est surpassé. Et les gens dans mon groupe aussi, Romain, notamment à la batterie, il a acheté tout un parc micro, il a acheté une carte son pour pouvoir s'enregistrer. Donc, effectivement, on a sorti une petite vidéo qui... C'est une petite vidéo, mais elle nous a demandé du taf. Les gens, la seule chose qu'ils mettent, c'est un pouce et « Oh, c'est chouette, encore !» Encore, mais tu sais, c'est 30 ans d'expérience qu'on met dans une petite vidéo. Et c'est pas juste « encore », c'est normalement, on paye pour ça. Donc, moi, mon refuge, ça a été de me mettre à la guitare plus activement qu'auparavant. Voilà.
Et avec justement la possibilité de te produire même carrément solo, on a vu ça il y a encore pas si longtemps. Par rapport à ça, ton sentiment pour ces musiciens là qui se sont produits effectivement pour certains quasiment quotidiennement, est-ce que tu as eu l'impression qu'ils bradaient leur art, ou qu'ils simplement ils voulaient continuer à exister aux yeux de leurs fans ?
Non, je pense que chacun trouve sa survie morale aussi comme il peut. Donc si pour certains c'était une bouée de sauvetage, une façon de ne pas couler, j'ai rien à dire là-dessus, mais j'ai eu peur quant aux réactions du public après. Je me suis dit, les gens ils sont habitués maintenant à recevoir tout ça gratos, à pas bouger de chez eux. Bon, évidemment, ils n'ont pas l'expérience du live, mais finalement, il faudrait pas qu'ils arrivent à s'en contenter. Parce que quand on va y revenir au live, ils vont peut-être dire, bon non, mais nous, moi, ça m'allait très bien dans ma... à la maison, boire un coup, pas risquer les flics, chercher un parking. Bon, il se trouve que j'ai l'impression que les gens sont très contents de ressortir.
Ouais.
Et de revivre des expériences physiques. Mais j'ai eu peur, en fait. Enfin, je me suis vraiment posé des questions et je me suis dit, Les musiciens, chacun le vit comme il peut, mais le public il s'est retrouvé à recevoir une avalanche de gratuité jusqu'à pour des choses qui jusque-là soit n'existaient pas. Cabrel qui montre des plans de guitare. Non mais comment est-ce qu'on pouvait imaginer lui-même d'ailleurs, comment est-ce qu'il pouvait imaginer qu'un jour il serait en train de montrer ses plans de guitare avec son téléphone? Donc Aubert qui se... pour des gens très connus quoi, qui se montraient beaucoup beaucoup. Je me suis dit, le public qui d'un seul coup il profite d'un truc, ça fait des archives hallucinantes pour la suite. On voit les gens dans une intimité, dans une relation que même un caméraman aurait espéré filmer, il n'aurait pas eu, quoi.
Alors, tu viens de donner un certain nombre d'avantages, justement, à cette musique virtuelle, finalement, et puis aussi un certain nombre d'inconvénients au fait de devoir se déplacer pour aller voir de la musique live. Qu'est-ce que tu dirais maintenant aux gens? Ça y est, vous pouvez vous déplacer, vous avez le pass sanitaire, vous venez voir un concert. Qu'est-ce que ça va changer dans leur vie depuis 18 mois, la vie du spectateur qui voit ces choses sur écran? Qu'est-ce que ça va changer d'aller voir du live, finalement? Comment tu peux les convaincre?
Je pense qu'on peut obtenir des émotions par écran. Le cinéma nous fait pleurer. Des documentaires nous font pleurer. Donc, l'écran ne veut pas dire frigidité émotionnelle. Mais hier soir, je jouais à Pau seul. Ça ne m'arrive pas beaucoup. Donc, c'est mes premières expériences. Je me découvre aussi des tas de trucs. Et à la fin du concert, un type me dit, quand je t'ai vu aussi passionné, ça m'a rappelé que moi aussi j'ai une passion que j'ai mis en sommeil. Il est cuisinier et en fait il est devenu formateur en cuisine. Il me dit, mais moi ce que j'aime c'est la création en cuisine. Et je me rends compte quand je te vois, que je te vois tu t'éclates, tu vis ton truc, ça me renvoie. Mmh. Et je pense que cette sensation, cet écho, il l'a réellement vécu parce qu'on était dans la même pièce ensemble et que je me suis déplacé, j'ai joué pour eux, pour sa table et tout ça. Et donc il a vraiment été touché. La musique live, elle nous touche, elle peut vraiment nous toucher du doigt. On est en physique, on est en présentiel. Et ils peuvent être contaminés par un postillon, mais ils peuvent aussi... On est en direct.
On reçoit les émotions en direct, on les perçoit.
On les perçoit avec nos sens, en totalité, pas juste avec nos yeux, nos oreilles. On a la vibration, on a l'humain, on a les vibrations humaines. Et ça, c'est... l'écran, il ne le donne pas quand même.
Nico Wentoussin, depuis que tu as enregistré cet album pour Dixie Frog, Nico plays James Cotton, tu as eu l'occasion maintes fois de le défendre, ce répertoire-là, sur tout plein de scènes. Ici en Normandie, la dernière fois, c'était en 2018, sur la scène du Souboc. Et là, ce soir, sur la scène de Coutances, 3 ans après, ça a dû nécessiter, j'imagine, après toute cette période de 18 mois de Covid, une remise en place. Tu as fait des répétitions à nouveau avec les musiciens
ou est-ce... On en parlait tout à l'heure à table et... Je leur disais que la musique qu'on joue, en fait, c'est pas une musique de gens qui ont répété. C'est une musique de gens qui étaient sur la route et qui forgeaient les arrangements. On en avait parlé avec Bonifields quand il nous a rejoint au New Morning, quand on avait fait la sortie du disque. Et je lui dis, mais comment vous aviez écrit tout ça? Il me dit, mais en fait, on était tout le temps, on se chuchotait des riffs et puis on inventait les riffs. Donc, on a fonctionné sur nos acquis et sur notre envie de se retrouver. Alors, peut-être que c'est pas tiré au cordeau, mais tout le monde a très très envie de jouer. Et ça, c'est le plus important. On a passé 10 heures dans le camion à rouler ensemble, à rigoler ensemble, à dormir la tête sur les épaules les uns des autres. Et voilà. Et ça, ça fait la musique. C'est pas que des heures en répétition qui font la musique. Surtout ce type de musique-là.
Qu'est-ce qu'ils attendent, les spectateurs de Jazz sous les pommiers, ce soir, de ce concert?
J'en ai pas la moindre idée de ce qu'ils attendent. Et ça arrive tout le temps. Que nous, on se déplace vers des publics qu'on rencontre. Je sais pas avec quelle envie ils viennent. Peut-être ils me connaissent, peut-être quelqu'un leur a indiqué que c'était bien, peut-être ils ont eu des places gratuites. Le truc, c'est que nous, on va monter avec l'envie c'est pas méchant, mais de les décapiter, de les renverser, de les gagner, de les faire s'élever, tu veux. Donc, ça, c'est toujours la force, la motivation qui nous conduit sur scène. Et ensuite, on rencontre des gens qui repartent en se disant, putain, vous m'avez soigné, quoi. Tu vois, ça me fait penser à Johnny Hooker, The Healer. Je me suis dit, c'est vrai, c'est bizarre, c'est fou. La musique, c'est vrai que elle a ce pouvoir. Et ça me dépasse. Moi, j'en sais rien. S'ils étaient dépressifs la veille, s'ils avaient le moral dans les chaussettes et ils repartent. Mais bon, voilà, l'important, c'est que qu'il y ait des échanges positifs. S'il y a un mec qui se lève, il dit « c'est nul !» Bon, voilà, il y aura un échange, mais ce ne sera pas celui que j'aurais voulu.
Ça ne sera pas forcément constructif.
Voilà.
Est-ce qu'il y a des publics plus difficiles que d'autres, Nico, par rapport... On va parler que de festival, parce que là, ici, c'est un festival, la Jazz sous les pommiers. Je sais que tu avais défendu ce répertoire devant le festival, devant le public de Marcia, que ça avait été fantastique. Tu avais fait la première partie, c'était Didier Bridgewater, je crois. Et il me semble qu'au moment où vous êtes croisés, elle a dû te dire... putain, tu m'as volé mon public ou un truc comme ça.
Bah, on n'a pas eu cet échange-là.
T'as pas eu cet échange-là ?
Non.
Alors, ça a resté dans la légende, ça, parce que
c'est resté dans la légende. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites à la transition, mais c'est sûr que nous, on a vendu pendant trois quarts d'heure des disques. voilà, les gens nous achetaient encore des disques, elle allait commencer son concert. Bon, voilà, il y a plein de gens après qui sont, semble-t-il, partis, je sais pas. Je m'en fous, en fait, je veux pas trop savoir.
Et pourquoi ça marche plus ailleurs qu'à certains endroits? Pourquoi c'est plus difficile parfois?
Je sais pas, le son, la salle, je pense que le son il fait beaucoup. La salle, la qualité du son dans la salle, je trouve que ça fait beaucoup. Et. Peut-être qu'il y a des publics qui sont francs. Un jour, je me souviens, dans le nord, là, dans le nord-est de la France, une soirée où je me suis dit, mais les gens, ils sont... Pourquoi ils sont là, en fait? Parce qu'ils étaient là comme s'ils regardaient des voitures derrière une vitrine, quoi. Je me disais, mais c'est quoi le délire? Voilà. Il y a des fois... mais c'est rare, hein, c'est vraiment rare.
Et en club, il y a toujours cet échange de plus proche encore. Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui te manque quand tu es à 2 ou 3 mètres du premier rang?
Oui. Après, on, généralement, quand on est à 3 mètres du premier rang, c'est que la scène est beaucoup plus grande.
Bien sûr.
Et donc, je me prends un peu pour Mick Jagger. Je me dis, tiens, c'est chouette. Il y a aussi un espace à occuper. Et ça permet d'avoir une gestuelle différente de celle de club, par exemple. Donc ça, c'est intéressant, c'est rigolo, ça permet de s'amuser, d'exploiter d'autres facettes du show, de nos musiciens. Mais je me rends compte avec les années que j'aime beaucoup descendre dans le public. Ça me fait penser à Lucky Peterson, que j'aimais pas quand je le voyais le faire. Je me dis, ah putain, il descend encore. Mais moi, j'ai envie de le faire. Et pourtant, c'est jamais, je te jure, que ce n'est jamais prévu. Il se trouve que souvent, ça se passe. Mais en fait, il n'y a jamais... Là, aujourd'hui, je n'ai pas demandé un micro HF parce que je vais descendre dans le public. À Marseille, je m'étais dit, est-ce que si vous avez un micro HF dispo, j'aimerais bien l'avoir éventuellement, si je le sens. Si... Et ça s'est passé, quoi. Et avec la taille de Marciac, il n'y avait pas d'autre manière de faire qu'avec un micro HF. Mais une salle comme aujourd'hui, je me sentirais d'aller au milieu des gens et de chanter. Et ils entendraient une toute petite voix dans cette grande salle. Et finalement, comme c'est le silence, les gens, ils entendent un humain qui parle à d'autres humains, une voix à des oreilles, quoi. Et j'aime beaucoup ça parce que ça réhumanise des concerts qui parfois peuvent sembler impersonnels.
Voilà, Nico N. Toussaint dans Sweet Home Chicago. On continue avec un nouvel extrait de cet hommage à James Cotton. Ça s'appelle One More Mile. It's been a hard day for the journey. And I don't have to cry no more. You can keep the lighter burning, so your mind can notice. Go one more mile. I've got 1 more mile to go. It's been a hard day with the journey, but I won't have to cry for you no more. Oh, you know I did wrong when I took a gamble. I bet my money wrong. I was betting on my baby, but my baby wasn't even home. 1 more mile. I've got 1 more mile to go. It's been a hard day with the journey, but I don't have to cry. I'm loving. She only lived in this one state. 1 more mile.
One More Mile, extrait de l'album Nico Wayne Toussaint Plays James Cotton. Allez, on y va pour la deuxième partie de l'interview captée le 27 août dernier à Jazz Sous les Pommiers avec Nico Wayne Toussaint.
En quelques mots, Nico, pour décrire l'art et l'artiste qu'était James Cotton, qu'est-ce que tu dirais aux néophytes ?
Je pense que James Cotton, c'était un harmoniciste qui voulait appartenir à son temps, qui a donc été un élève de Sonny Boy Williamson, mais qui ensuite a vu James Brown, il n'a pas voulu être en reste, et il a voulu s'éclater. C'est un type, je pense, qui vivait... qui brûlait la chandelle par les deux bouts, qui était un boulimique. Et quand j'ai rencontré des gens qui m'en ont parlé, autant pour les drogues que pour la bouffe, que pour tout, c'était quelqu'un qui pouvait rester trois jours sans dormir, quoi. Nous, on n'a pas dormi de la nuit, et ça me fait un peu penser à lui, mais lui, voilà, il c'est possible, bon, il a perdu sa voix parce qu'il a beaucoup tiré sur beaucoup de choses. et voilà, je pense que c'est quelqu'un dont la musique fait ressentir cette urgence de la vie. Donc, on n'est pas dans la technique, on n'est pas dans un truc lissé, répété, calé, mais par contre, on est dans un truc, un coup de poing, quoi. Mmh. Et James Cotton, pour moi, c'est un cri. En guitare, je trouve qu'il y a Albert Collins qui fait des cris. James Cotton, il crie à l'armo. Et ensuite, il joue de l'armo. Mais avant tout, c'est un coup de poing. Je jouais avec Rax Lacour, que tu as connu. C'était un grand fan d'Albert Collins. Et à l'époque, je m'étais dit, qu'est-ce que je peux moins faire à l'harmonica qui peut concurrencer ou qui peut tenir le pavé de ce que Rax il envoie à la guitare. Et le seul harmoniciste qui pouvait envoyer des flèches sonores, c'était James Cotton.
Alors, Nico Wayne Toussaint, showman, Nico Wayne Toussaint, harmoniciste, chanteur, et puis ce soir, leader d'un octet pour le répertoire de James Cotton, mais également Nico Wayne Toussaint, homme de radio. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience d'animateur radio depuis quelques mois que tu t'es lancé maintenant ?
C'est un grand plaisir, mais c'est aussi un retour à mes origines, puisque quand Mitterrand est passé, mon père a monté une radio locale à la maison et j'avais 7 ans. Et donc j'ai fait des émissions quand j'avais entre 7 ans et 11 ans. Donc c'était retrouver des sensations qui étaient profondément ancrées en moi. Après, c'est une régularité à laquelle j'ai du mal à me tenir aujourd'hui.
Une question...
J'admire les gens qui ont 30 ans d'émissions. j'admire parce qu'en fait, c'est une régularité incroyable. Même dans l'organisation, si tu le prépares à la maison, c'est vraiment une activité en réalité. Et quand je vois la qualité de tes interviews, et c'est vraiment pas pour te brosser du poil parce qu'on est là en face, mais c'est aussi une manière de penser, une manière de traiter l'information en direct, que t'entends, pam, tu fabriques la bonne question derrière qui stimule l'interviewé. C'est un art, quoi. C'est vraiment un art d'être extrêmement affûté avec les années. Je pense que ça c'est une forme d'automatisme, mais je sais aussi que c'est loin d'être automatique quand c'est pas ton métier, quand c'est pas ton activité. Donc j'admire les gens qui ont cette capacité.
En tout cas, pour avoir écouté quelques fois ton émission, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de spontanéité et puis beaucoup de références, de culture, bien évidemment. On sait tout l'amour que tu portes à ces musiques-là. Et puis, ben voilà, le fait d'être capable de sortir des disques qui parfois n'ont pas été écoutés depuis beaucoup d'années pour certains. Ben moi, c'est quelque chose que j'apprécie aussi. Il faut savoir être à l'affût des nouveautés. Il faut aussi savoir ne pas oublier d'où on vient. Et ça, c'est ce que tu fais, j'imagine.
Moi, en fait, dans cette émission, Blues in the House, sur RPO, j'ai décidé de ne pas être dans l'actualité. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'actualité qui ne me touchent pas. Et j'ai décidé que c'était pour mon plaisir. Et donc, pour mon plaisir, j'allais pas me forcer à diffuser des trucs parce que tel label me l'avait envoyé, parce que tel artiste que je connais bien me l'avait envoyé. Donc, on m'a proposé des fois sur Internet ce que tu veux mon dernier album. Et j'ai dit non, je diffuse rien de nouveau quasiment. Voilà. Et parce que je voulais aucune obligation. Et je pense que dans ce milieu-là, quand on commence à vouloir être dans l'actualité, alors on est dans une forme de course à la nouveauté. Moi, je voulais surtout pas être là-dedans. Et je voulais surtout pas avoir à gérer l'arrivée de 5, 6 CD par semaine, 10 CD par semaine, les écouter. Moi, c'était un hobby. Et il fallait que ça puisse rentrer dans un petit créneau. Et je voulais pas décevoir les gens. Ah mais je t'ai envoyé mon disque, tu l'as pas joué. Donc voilà. Pour moi, c'était vraiment le bonheur de partager de la musique que j'aime, avant tout.
Nico, on va terminer peut-être sur une note un peu moins gaie. Un autre grand bluesman, on va dire père fondateur du blues en France, et également homme de radio, vient de nous quitter, Patrick Verbeek. Qu'est-ce que tu as ressenti à l'annonce de cette disparition ?
C'est un très bon copain qui m'a envoyé un message, alors même que l'information n'était encore sur aucun réseau. Mmh. Et comme toujours en ce moment, quand des gens meurent, avec le résultat des réseaux sociaux, on a des avalanches de témoignages. Et ça donne dans le mielleux. Et chacun y va de son histoire. Et je trouve ça lourd. Parce que Patrick Verbeek, je pense pas que beaucoup de gens le considéraient comme une légende au moment où il était vivant. La mort, en ce moment, avec les réseaux, a aussi cette faculté qu'elle donne un écho surdimensionné à la personne. Moi, Patrick Verbeek, je l'ai écouté et j'ai un souvenir de radio que quand je me suis retrouvé à faire de la radio, j'ai pensé à lui. Et ça, c'est vrai, je me souviens un jour, je rentrais chez moi un soir et il passe Taj Mahal et c'était « Mama, 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 I need your love and ever » avec Bonnie Raitt. Et je sais, alors la chanson, il la joue en deux fois dans l'original. Je sais pas si Patrick, moi, dans mon esprit, de ce que j'ai entendu, il a dit « C'est tellement bon, on se le remet une deuxième fois. » Je me suis dit « Putain, mais c'est énorme !» Le mec, en fait, il a généralement, à la radio, on entend une chanson une fois. Lui, il a le droit et il nous fait partager son plaisir, quoi. Et la chanson repart. Et donc, ça a été un souvenir que je regarderai à vie de radio et de sentiment de spontanéité. Et ensuite, quand il a pu Europe 1, il a eu une web radio à Paris et il a eu la gentillesse de m'accueillir et de me faire un interview. À sa façon, je n'ai pas forcément apprécié, il jouait un riff un peu là, Uchi Kuchiman, et je vais faire une bio, me présenter sur ce riff-là. Bon, voilà, c'était un format qu'il avait construit et voilà. Mais
ça ne te convenait pas forcément.
Oui, ça ne me convenait pas forcément, mais c'est un mec qui a vraiment toujours été... Le peu de fois qu'on s'est croisé, qu'on s'est très respectueux, très ouvert. Une fois, je suis allé le voir, il était avec Souffolet au Méridien. Mmh. Et il m'a appelé sur scène pour jouer avec eux. Tu vois, c'est vraiment extrêmement généreux. Et donc là, voilà, j'ai rien à dire. Mais par contre, c'est vrai que je n'ai pas cultivé l'écoute de Patrick Verbeek, de ses chansons. Et c'est à sa mort que j'ai cherché des chansons comme ça pour voir. Et j'ai trouvé Blues in My Soul, qui est un peu autobiographique. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et puis voilà, après. Mais ça me surprend un peu, cette avalanche. Voilà, je trouve un peu...
Je pense qu'il faut réécouter l'album Bluesographie, à mon avis, Nico.
Ouais.
Ouais, c'est un truc avec le blues du bébé heureux, enfin, ouais.
Ok.
Toute sa vie, quoi. Ouais.
Ouais.
Ça fait probablement partie. Enfin, Patrick Verbeek fait probablement partie des géniteurs du blues ici en France, aux côtés des gens comme, on va dire, les quatre mousquetaires, Benoît Blueboy, Bill Durham, Paul Person. Est-ce que tu as l'impression, toi, en tant que musicien de la génération suivante, tu leur dois quelque chose, ou est-ce que tu as fait ton sillon de ton côté?
Alors c'est aussi peut-être ça explique aussi peut-être mon détachement par rapport à l'œuvre de Patrick Verbeek. C'est que moi, je n'ai jamais découvert ces artistes à part Paul Person, mais Benoît Blueboy et Patrick Verbeek, c'est beaucoup plus tard. Mon père connaissait Bill Durham, il l'avait enregistré d'ailleurs dans les années 80. Bill Durham est passé à la maison voir mes parents. Il y avait une histoire ancienne, mais Bill Durham, après, il était connu pour Babylon, tu déconnes. Mmh. Moi, c'était pas du blues. J'ai jamais associé ça à du blues. Et ce n'est que en réécoutant un enregistrement d'un festival que mes parents avaient produit à Lambesque, comme à la Taverne, 70-71, où il y a une chanson de Comeback Baby à la 12 cordes, et je me dis, mais qui c'est ce mec? Et en fait, c'est Bill Durham. Et là, j'hallucine, parce que son chant, je me dis, putain, pourquoi il a pas continué en anglais? Parce que en français, c'est cool, mais ça m'a jamais touché autant que ce qu'il a produit là, quoi. Donc tu vois, après, c'est des sensibilités.
Nico, on te souhaite un excellent concert, bien sûr, mais ça va être le cas forcément, comme à chaque fois. Je pense que le public de Coutances t'attend. Ici, d'habitude, c'est une soirée blues au milieu d'un festival de jazz avec un artiste américain en vedette. Ce soir, l'artiste américain, c'est toi. Il va falloir tout donner.
Oh oui, oui. Ça, qu'on soit en première partie, en seconde, aux États-Unis ou en France ou en Espagne, on fait pareil.
Merci pour ce que tu fais, merci pour tout ce que tu es, Nico. À très bientôt.
Merci.
Merci.
Voilà, c'était l'interview de Nico Wayne Toussaint. C'était le 27 août dernier à Jazz sous les pommiers à Coutances. On va revenir sur cet album Nico Wayne Toussaint Plays James Cotton avec ce fabuleux Midnight Creeper. Fabuleux, Nico Wayne Toussaint, je peux vous assurer que c'était comme ça. Lors 2018 au Sous-Bock, en 2021 dans la salle Marcel Ailly de Coutances, voilà, partout il va, il fout le feu. Un artiste généreux, un artiste extraordinaire, monsieur Nico Wayne Toussaint, dans cette première heure de Sweet Home Chicago. On n'oublie pas qu'il y aura un autre artiste, lui aussi tout à fait extraordinaire et virtuose à l'harmonica, la personne Greg Slap, dont ce sera l'interview en direct en deuxième heure de cette présente émission. On revient sur le disque du mois maintenant, c'est toujours l'album de Tommy Castro, Bluesman Came to Town. Voici le titre album, Tommy Castro, sur Radio 666.
Chopping wood behind the barn. Must be a better way to use these hands and arms. Heard about a roadhouse mile outside of town. Quitting time on Friday, laid that pitchfork down. Once he heard that guitar, man, it shook him to the ground. Guitar, and he taught that boy to play. The music filled his soul ever since that day.
On reviendra bien sûr sur cet album qui s'appelle Tommy Castro Presents Bluesman Came to Town chez Alligator Records au cours des prochains Sweet Home Chicago, puisque c'est le disque coup de cœur du mois de septembre. Et pour terminer cette première heure, on va faire une petite intro à la deuxième heure. Je vous ai dit, interview de Greg Slap. On va revenir sur les vieilles canailles. Allez, voici un titre que vous connaissez tous.
Entrez, entrez. Jenny, il y a une fille là, qui te demande.
Une fille?
Ouais. Et tu la connais depuis très longtemps d'ailleurs. Mais tu la reconnaîtras quand même malgré le fait qu'elle est un peu changée.
Changée.
C'est Gabriel.
Vous la connaissez? Et vous? Et vous?
Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrange m'a dit. Et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. Et entendre la vie et ne plus m'essouffler ce tégré. Fini, fini pour moi. Je ne veux plus voir en image dans tes yeux. Dix ans de chaîne sans fin de jour, c'était ma peine pour ça de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma place. avec l'incroyable Greg Zapp. Dans mon cœur, c'est une illusion de douceur. Et tu sens, c'est la voix d'une enfant avec laquelle tu glaces mon sang. Je veux t'expliquer, tu confonds le jour et la nuit. Je veux t'approcher, mais tu tournes le dos, tu t'enfuis. Je ne serai plus l'esclave de ta chair. 10 ans de chair sans faire le jour, c'était ma peine pour ça de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma place. 10 ans de chair sans faire le jour, c'était ma peine pour ça de l'amour. J'ai refusé. Oui, j'ai refusé.
Et oui, trois amis, 22 musiciens, 22 tubes remasterisés, un concert historique, les vieilles canailles, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, Jacques Dutronc, Greg Zapp à l'harmonica sur Gabriel. Voilà, ça c'est du grand spectacle. Hein.
Merci beaucoup.
C'est la fin de cette première heure. Dans quelques secondes, on se retrouve en deuxième heure de Sweet Home Chicago avec l'interview en direct de Greg Zapp.